Savez-vous qui a inventé la roue ? Alors, savez-vous à quelle époque elle a été inventée ? À quelle époque ? Vous savez à peu près ? Qu'est-ce que vous diriez ? Au Moyen Âge, l'Antiquité ? Avant ? Alors, la roue, c'est une des plus grandes inventions de l'homme. Et en fait, son origine reste mal connue. On pense qu'elle aurait été inventée vers 3500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Alors, la Mésopotamie, géographie, où c'est aujourd'hui la Mésopotamie ? C'est à l'Irak, voilà. C'est à peu près l'Irak actuel. Les Sumériens, qui utilisaient des rondins de bois pour déplacer de lourdes pierres, auraient eu l'idée d'y faire un trou au centre pour y placer un axe. Plus tard, on a évidé certaines parties pour réduire le poids de la roue. Les rayons ont donc fait leur apparition à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, avec les enfants et l'aide de Gérard tout à l'heure, j'ai utilisé l'image de la roue pour parler de nous tous, de l'Église, avec Christ au centre. Au temps de Jésus, dans les évangiles, l'Église n'existait pas. Il y avait des personnes qui suivaient Jésus et ses enseignements, mais il n'y avait pas de structure organisée. Ses plus proches amis étaient appelés ses disciples. Et ce mot signifie « ceux qui suivent ». Étymologiquement, les disciples, ce sont ceux qui suivent. Alors, on peut quand même imaginer dans les évangiles cette première église qui est formée par les disciples de Jésus. Leur vie pendant ces 3 années à peu près aux côtés de Jésus n'a pas été de tout repos. Entre abandon, guérison, cours du jour et cours du soir, questions et doutes, peur et joie, tout un programme pour ses proches. Parfois, les disciples étaient comme les rayons, tout près du centre et de leur maître, et parfois bien plus éloignés de la parole de vie que Jésus voulait leur donner. Dans certains moments, les disciples étaient enjoués, et à d'autres, plus désespérés. Le passage de Jean que je viens de lire fait partie de ces moments où, pour les disciples, cela a été difficile. Nous sommes à la fin de l'évangile de Jean. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Vous savez que le lavement des pieds, ça remplace quel autre moment important dans les autres évangiles ? On en a parlé au mois de mars. Ouais, la Sainte Cène. Dans Matthieu, Marc et Luc, c'est le moment du dernier repas. Et dans Jean, à la place du dernier repas, il y a le lavement des pieds. Alors donc, Judas, après le lavement des pieds, vient de partir pour livrer Jésus, pour le trahir. Et Jésus leur explique alors qu'il va s'en aller. Il leur laisse encore une parole nouvelle, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il annonce à Pierre qu'il va le renier. Nous pouvons imaginer une ambiance bien pesante entre Jésus et ses amis qui, depuis le début, ont mis toute leur espérance en lui, et qui maintenant s'entendent dire, bah écoutez, moi je m'en vais, débrouillez-vous. Les disciples sont dans l'incompréhension, peut-être même le désarroi. Le souffle est retombé et la roue a du mal à avancer. Je pense que vous avez tous fait l'expérience de rouler à vélo avec des pneus sous-gonflés. C'est rude. Et puis quand on remet un peu d'air, ça va beaucoup mieux. À ce moment-là, pour nos amis, le souffle n'y était plus. Alors figurez-vous que c'est un peu, toute proportion gardée, le sentiment qui m'a traversé cette semaine en préparant le message pour aujourd'hui. Une prédication par semaine. Les prédicateurs que nous sommes, sommes censés être inspirés très régulièrement. Inspirés comme inspiration, c'est-à-dire rempli du souffle, dimanche après dimanche, pour trouver une parole bonne vivante, adaptée pour partager la bonne nouvelle. Alors inspirés, nous devons tous l'être dans nos vies au quotidien, face à un oral, face à un proche avec qui il est difficile de partager, face à un ami qui souffre, ou encore face à un écran désespérant vide, désespérément pardon, blanc, qui attend le rapport ou la dissertation. C'est au fond de mon lit, comme souvent c'est le moment où notre esprit s'éclaircit, à moins qu'en fait nous ne soyons plus disponibles à entendre, qu'en ruminant le texte biblique pour ce matin, je me suis vue à la place des disciples. Je me suis vue à leur place, tourmentée, qui n'avaient en fait pas compris grand-chose à ce que Jésus voulait leur dire, cherchant auprès de leur maître des réponses claires, des chemins balisés, quelque chose de concret, de solide. Alors à vous, les jeunes, les filles, quelle est la question inquiète de Thomas à Jésus ? Alors, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, oui ? Voilà, comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ? Ben oui, le contrat n'est pas clair. Le programme laisse à désirer. C'est un peu comme si Thomas disait, bah, tu es venu parmi nous, tu nous as appelés, tu as fait des miracles, et maintenant tu t'en irais. En plus, tu nous appelles à te suivre, mais sans nous dire où tu vas. Un des jeunes qui termine son caté cette année, alors les dernières années de caté ne sont pas là aujourd'hui, ils sont à Bellegarde en week-end avec tous les autres jeunes du consistoire. Un des jeunes a partagé avec nous sa difficulté. Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous a-t-il dit, autour de moi et en moi, je ne vois pas une route bien tracée pour suivre Jésus. Oui, c'est difficile. C'est exigeant. Et nous le disons sans hésiter, la foi en Christ ne propose pas de vivre confiné dans un tunnel protégé des malheurs du monde. Il est tout à fait vrai aussi que lors de sa venue sur terre, Jésus n'a pas non plus toujours été très clair. Et nous le voyons bien aujourd'hui, dans la façon dont, à partir d'une même parole de Jésus, certains en tirent des conclusions de vie assez éloignées. Alors, est-ce que Jésus répond à Thomas en lui montrant le chemin ? Ce qu'il répond dans notre texte. Oui. Alors, Adrien dit, il répond, il dit que c'est lui, mais est-ce que... C'est clair, ça ? Alors, oui, il répond, mais en même temps, pas vraiment. Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi, dit Jésus. Je pense que Thomas n'était pas plus avancé. Alors, les garçons, la demande de Philippe. Allez-y. Voilà. Seigneur, montre-nous le Père. Est-ce que Jésus montre quelqu'un dans le texte ? Bah oui, il montre personne, il dit « mais t'as rien compris, en fait le Père il est là et moi je suis dans lui et... » Bon, il leur reproche même de ne pas l'avoir assez écouté, de ne pas le comprendre, de ne pas croire que le Père vit en lui. C'est un peu compliqué. Parfois nous aussi nous aimerions, comme Philippe, voir le Père. Que nous soyons sûrs que nous n'ayons pas fait tout cela pour rien. Toutes ces grâces matinées manquées. Nous aimerions qu'ils viennent là, maintenant, au milieu de nous, nous expliquer clairement les tenants et les aboutissants de son appel. Comme Thomas, nous aimerions qu'il nous place directement sur le bon chemin, balisé, protégé, et que nous y restions avec lui et ensemble pour toute notre vie. Ce serait quand même bien plus facile. Mais voilà. Choisir la vie, comme Dieu nous le demande dans toute la Bible, ce n'est pas choisir la facilité. Alors, qu'est-ce qui nous reste quand il nous semble que nous n'avons plus assez de souffle pour avancer ? Quelle peut être cette bonne nouvelle pour ce matin, dans nos incompréhensions et dans nos questions ? Est-ce que quelqu'un se souvient du premier verset du texte de Jean 14, verset 1 ? C'est ça. Ne soyez pas inquiets. C'est la première parole de Jésus face à l'inquiétude de ses amis. Et là aussi, je me suis sentie à la place de Thomas et de Philippe. Je me suis sentie amie et disciple. Ne soyez pas inquiets. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ces quelques mots laissés aux disciples alors qu'ils étaient habités par l'incompréhension nous sont encore adressés à chacun de nous aujourd'hui, dans nos moments difficiles, dans nos deuils, dans nos regrets, dans nos ruptures, dans nos changements de vie. Jeunes ou moins jeunes, nous connaissons tous la peur, l'inquiétude, et les vivons peut-être même chaque jour dans notre chair. Ce texte nous redit ce matin qu'une parole d'apaisement, un souffle nouveau, nous sont donnés pour pouvoir poursuivre notre route. Et très concrètement, pour moi, cette semaine, dans la préparation du message, cette parole a permis de regonfler mes roues, de recevoir la paix, et donc de mettre fin au syndrome de la page blanche pour me remettre en route et vous transmettre la bonne nouvelle. Ne soyez pas inquiets. Et si nous regardons pour terminer la toute fin du texte, au verset 14, est-ce que quelqu'un se souvient du dernier verset ? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, la paix, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. La paix dans nos cœurs et dans nos vies d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de femmes et d'hommes. Le souffle, Dieu Père, c'est ce que nous te demandons. Le souffle pour nos cœurs et pour nos vies qui crient à ton espérance. Et alors nous pourrons proclamer avec le psalmiste que nous avons entendu tout à l'heure, « Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. » Amen.